Ésaïe, verset 1 du chapitre 15. Quelques semaines maintenant que nous avons entrepris l'étude des prophéties d'Ésaïe. Et là, nous continuons dans une série de prophéties sur ce qu'on appelle les nations. Les nations, c'était les pays païens à l'origine, par opposition à Israël, aux enfants d'Israël. Et on voit comment Dieu a choisi Israël pour bénir ses nations. À l'origine, dans l'alliance faite avec Abraham, l'idée c'était de choisir un peuple, de l'utiliser ensuite pour bénir le monde entier. Le problème, c'est que Israël a pris ce choix comme un sujet de fierté nationale au lieu d'en faire un sujet de reconnaissance et de zèle pour répandre la bonne nouvelle d'un Dieu qui a créé les hommes, qui a créé les cieux, qui a créé la terre et qui les aime et qui veut les bénir. Et le prophète Ésaïe nous indique des prophéties. Donc il a vécu vers l'an 750 avant notre ère. Il a vécu sous le règne de plusieurs rois et il a annoncé des prophéties contre Israël et Juda. Les enfants d'Israël, après être entrés en terre promise, avaient eu une période de 400 ans où il n'y avait pas de roi. C'était la période des juges. Et puis, ils ont voulu être comme tout le monde, ils ont voulu des rois, donc Dieu leur a accordé une royauté. Le premier roi, ça a été le roi Saül. Ensuite, le roi David et le roi Salomon. Puis, à partir de la fin du règne du roi Salomon, il y a eu une division du royaume en deux parties. Le royaume du nord, appelé aussi Israël, ou quelquefois Éphraïm, par le nom de une des 10 tribus les plus influentes qui s'étaient mise avec le royaume du nord, et d'une autre part le royaume du sud, de Juda, avec pour capitale Jérusalem, l'autre capitale étant Samarie. Donc, indifféremment, on parle de Samarie, du royaume du nord, d'Israël, des 10 tribus, d'Éphraïm pour parler du royaume du nord, et de Juda ou de Jérusalem pour parler du royaume du sud. On sait par l'histoire et par la Bible que le royaume d'Israël a été emmené en esclavage, en servitude par les Assyriens en Assyrie. Et puis le royaume du sud a résisté plus longtemps, mais il a finalement été emporté par Babylone. À Babylone, et là, il est resté là-bas pendant 70 ans avant de revenir. Ils ont vu la destruction du temple de Jérusalem, et c'est un peu l'histoire biblique qui se déroule devant nos yeux. Le prophète Ésaïe prononce ce qu'on appelle des menaces, c'est-à-dire des décisions de justice, en quelque sorte, que Dieu a prononcé contre les nations, contre ces pays incroyants qui adoraient d'autres dieux, qui étaient idolâtres. Et on a déjà vu le roi de Babylone, la prophétie contre le roi de Babylone. On a vu la semaine dernière qu'il était une préfiguration de Satan. Il en est question aussi dans Ézéchiel 28, où là il est question du roi de Tyr, et on voit que c'est l'orgueil qui a fait que cet ange a voulu se faire aussi grand que Dieu, et finalement il a introduit le péché dans l'univers, et l'homme, en obéissant à Satan dans le jardin d'Éden, a fait entrer le péché dans la race humaine. Ce péché qu'on ne peut pas extirper par la médecine ou la psychologie. Seul Jésus peut nous en guérir. Le seul remède contre le péché qui est dans notre vieille nature, c'est la croix. C'est pour ça qu'on remercie Dieu pour cette croix. C'est le scalpel de Dieu, en quelque sorte, pour extirper le péché et faire que nous puissions avoir la vie éternelle avec Dieu. Tout ça pour dire que là, aujourd'hui, on va voir une prophétie contre Moab, une prophétie contre Damas et Israël. Encore une fois, Israël, c'est le royaume du Nord. Et on va essayer de voir une prophétie sur l'Éthiopie, qui est appelée quelquefois Kush ou Kush dans certaines versions de la Bible. Moab, d'abord. Qui était ce peuple de Moab? À l'origine, ce sont les relations incestueuses entre Lot, le neveu d'Abraham, et ses deux filles, qui a donné naissance au premier, à Moab, qui est le père de ce groupe racial, de ce groupe ethnique plutôt. Vous vous souvenez peut-être qu'après la destruction de Sodome et Gomorre, il en est question dans la Genèse 19, Lot, sa femme et ses deux filles ont pu s'échapper. Malheureusement pour elle, la femme de Lot a voulu regarder en arrière et elle a été transformée en un pilier, en une colonne de sel. Drôle de jugement. Mais peut-être que ces deux filles se sont dit, qu'après cette destruction terrible, il n'y avait aucun espoir de trouver un père à de futurs enfants. Donc elles ont choisi de saouler, d'enivrer leur père, et elles ont des relations sexuelles qui ont donné naissance à Moab et à Ben-Ami, l'ancêtre des Ammonites. Et ces deux peuplades se sont installées au sud-est d'Israël, dans une région qui s'appelle maintenant la Jordanie, pareil, plutôt. Donc c'est de l'autre côté du Jourdain et de la mer Morte, à l'est. Et c'est cette région dont il est question aujourd'hui. On a dit que, quelque part, il y avait une relation familiale entre Israël, les enfants d'Israël, et les Moabites, comme on les appelait, parce que, encore une fois, Lot, leur ancêtre, était un neveu d'Abraham, le père des Juifs et des Arabes aussi. On entend parler de Moab assez souvent dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez peut-être du roi de Moab qui s'appelait Balak, qui avait embauché un prophète bizarre, le prophète Balaam, pour maudire Israël. Ça, c'est dans le Livre des Nombres. Il y avait aussi un autre roi de Moab qui opprimait Israël au temps des juges. Lui, c'était Églon, et c'est Éhud, un des juges qui l'a poignardé pour s'en débarrasser. On se souvient même que David a confié ses parents un moment au roi de Moab. Donc il y avait une longue relation. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il y a une femme très célèbre qui était de ce pays. C'était qui ? Ruth, voilà, Ruth, l'ancêtre, plutôt une des arrière-grand-mères de Jésus, Jésus-Christ lui-même. Moab se trouve dans la lignée qui a amené le Messie. Donc c'était un peuple particulier. Et là, on sait que, probablement aux alentours de l'an 714, ou entre 710 et 715, ça dépend des datations, la Syrie, donc ça c'est le royaume assyrien, l'empire assyrien qui était la grande puissance mondiale à l'époque, a détruit les grandes cités de ce pays de Moab. Et ça, c'est beaucoup d'histoires, mais on va voir qu'on a des leçons à tirer de toutes ces histoires pour nous. J'aime toujours citer ce passage dans 1 Corinthiens 10, où Paul explique, parlant de l'Ancien Testament et de ce qui s'était passé dans l'histoire d'Israël, disait « Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. » Paul savait que ces histoires, ce n'était pas seulement de l'archéologie, de l'histoire antique, ancienne, qui n'intéresse que ceux qui veulent se spécialiser dans un domaine de recherche un peu particulier, un peu, on dirait, pas très pertinent avec la vie des gens qui vivent aujourd'hui. Mais Paul disait déjà, ça c'est arrivé pour nous servir d'exemple. Et il parlait de lui et de sa génération comme ceux sur qui la fin des temps était arrivée. Et nous qui vivons près de 1900 ans plus tard, ou 2000 ans, à plus forte raison, la fin des temps arrive sur nous. Et souvent ce terme dans la Bible veut simplement dire la période après l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Mais une fois encore, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, regardez ce que Dieu, par son Esprit Saint, veut vous enseigner. Et ça rend en fait l'étude beaucoup plus passionnante parce qu'on peut se perdre. Et on ne va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de noms de villes. Tout ça est très intéressant, mais on veut retirer les leçons que l'Esprit Saint a pour nous aujourd'hui, qui vivons au 21e siècle, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Cette prophétie, en fait, le prophète voit le futur avec ses yeux spirituels, mais il décrit, oui, en une nuit, verset 1 du chapitre 15, oui, en une nuit, elle a été ravagée. Ar Moab a disparu. Il parle d'une ville. Oui, en une nuit, elle a été ravagée. Kir Moab a disparu. On monte à Baïth et à Dibon, sur les hauts lieux pour pleurer. Moab se lamente sur le Nebo et sur le Medeba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans ces rues, ils sont vêtus d'un sac. Sur les toits et sur les places, chacun se lamente et fond en larmes. Eshbon et Eleal poussent des cris, on entend leur voix jusqu'à Yatz, c'est pourquoi les guerriers de Moab lancent des clameurs, ils ont l'effroi dans l'âme. On voit donc une vision apocalyptique, une vision de destruction, une vision de deuil. Les têtes sont rasées, les barbes sont coupées, et ils sont vêtus d'un sac en toile de jute, c'était un signe de deuil. Les hommes prenaient leur fierté d'avoir des cheveux longs, des barbes bien fournies, et être rasé et avoir la barbe coupée, c'était être comme un esclave, c'était avoir perdu toute identité. Et on voit les guerriers de ce pays qui lancent des cris, ils ont la panique, ils ont l'effroi dans l'âme. Et puis on voit la fuite des réfugiés. Il est intéressant de remarquer que Ésaïe a de la compassion pour le jugement qui tombe sur cette nation de Moab. On verra plus loin quel était leur problème. Mais il dit « Mon cœur, verset 5, crie sur Moab, dont les fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglas-Sélishiya, car ils font en pleurant la montée de Louit, car ils poussent la clameur du désastre sur le chemin de Horonaïm. Les eaux de Nimrim sont taries, l'herbe est desséchée, le gazon est détruit, la verdure n'est plus. Ils ramassent, c'est pourquoi ils ramassent ce qui leur reste et transportent leurs réserves au-delà du torrent des sols, car la clameur environne les frontières de Moab. Ses lamentations retentissent jusqu'à Eglaïm, ses lamentations retentissent jusqu'à Bérélim. Les eaux de Dimon sont pleines de sang et j'enverrai sur Dimon de nouveaux malheurs, un lion contre les rescapés de Moab, contre ceux qui restent sur son sol. Vision de réfugiés, on voit ça malheureusement encore aujourd'hui, trop souvent, sur nos écrans de télévision, aux informations, aux nouvelles. Des réfugiés qui fuient les guerres, qui fuient la famine, qui sont sans aucune ressource que celle qu'on peut leur amener par avion, etc. Et ces visions d'aujourd'hui des réfugiés, des fugitifs, montrent combien la Bible est véritable. Le monde voulait nous faire croire qu'avec le progrès scientifique, le progrès des institutions politiques, ces choses seraient du passé. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les mêmes choses qui se passaient dans ces temps bibliques continuent de se passer. Et ça, si ça ne nous dit pas qu'il y a un problème dans le cœur de l'homme, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra nous le faire comprendre. Nous savons que ce problème, c'est le problème du péché, de l'égoïsme. Ésaïe a de la compassion. Il a mal au cœur de voir ses petits cousins, des Juifs, ainsi persécutés. Mais on voit le jugement de Dieu contre eux. Il y a même des lions qui vont, des animaux sauvages qui vont contre eux. Il n'y a plus de ressources, l'herbe est desséchée, l'eau est remplie de sang. C'est une vision terrible. Et pourtant, encore une fois, ce sont des visions qu'on voit aujourd'hui dans certaines parties du monde. Ces parties du monde où, justement, les chrétiens sont persécutés. C'est une vision que l'Esprit-Saint veut continuer de nous donner. Il dit... Il est question souvent des mêmes pays dans Jérémie. Jérémie, lui aussi, était un prophète qui a fait des prophéties contre Moab. Et j'aimerais qu'on regarde au chapitre 48 de Jérémie, un passage assez court, mais qui est intéressant et qui peut nous parler à tous. On a vu dans le film, le DVD, la série que l'on regarde le mardi soir, que Dieu a choisi la terre promise pour son peuple parce que c'est un pays de carrefour. On a vu que c'était un pays sur des grandes voies de passage et qu'il avait choisi précisément ces endroits pour répandre la bonne nouvelle de son amour. On a fait remarquer que des fois, nous, on préférait trouver un petit village tranquille en France où on pourrait lire la Bible et être béni sans avoir à parler à personne. Mais Dieu ne veut pas ça. Il nous a mis à Nice, près d'un carrefour qui est un des plus fréquentés au niveau trafic de voitures en France. Le carrefour de la Madeleine, c'est un des carrefours les plus fous de France. Il suffit d'essayer de traverser la rue sans se faire écraser pour réaliser la vérité. Dieu veut que vous soyez là où il y a du monde. Il veut que vous soyez là pour parler. Et en fait, Moab, eux, ils s'étaient mis un peu à l'écart, ils étaient tranquilles. Et c'est ce que dit ce verset. Verset 11, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lie. La lie du vin, vous savez, ce sont les dépôts qui tombent au fond de la bouteille lorsque le vin vieillit. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre et n'est pas allé en déportation. Aussi, son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi, voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kemosh, c'était leur dieu, il n'était pas joli, avec un nom pareil, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, objet de sa confiance. Et là, Jérémie utilise une illustration qui parlait à l'époque. C'était comme ça qu'on raffinait le vin. Aujourd'hui, si on veut un bon vin, on sait qu'il suffit de dépenser un peu plus que pour du vin ordinaire. Mais là, la technique qui était utilisée, c'était de laisser le vin vieillir et puis de le transvaser dans un autre récipient, de transvaser la partie qui était purifiée, de transvaser cette partie dans une autre bouteille, dans un autre récipient, et de laisser les dépôts continuer à se déposer. Il ne fallait pas que le vin reste trop longtemps avec la lie, sinon ces dépôts pouvaient gâcher tout le vin. Et donc il y avait un savant dosage où on versait après avoir laissé déposer, et le vin ainsi se raffinait et devenait très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise cette illustration pour dire qu'en fait, Moab a besoin d'être un peu bougé. Moab n'a jamais été transvasé, n'a jamais été forcé d'aller ailleurs. Et elle s'est un peu gâtée. Et en fait, ces épreuves qui vont survenir sur Moab, ça va être pour que le vin devienne meilleur. Et ça peut vous encourager de vous dire que des fois, il y a des épreuves que nous subissons. Elles peuvent être le fruit de nos péchés, ça peut être une punition, le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Mais ça peut aussi avoir dans ce sens de nous raffiner, dans le sens de nous faire grandir dans la foi. Peut-être que vous aussi, ça fait un moment que vous n'avez pas bougé, ou que vous avez été dans un engagement qui n'a pas beaucoup changé dans la vie d'église. Vous venez tous les dimanches, mais bof, vous ne faites pas plus. Vous avez peut-être des aspirations, mais vous laissez les choses. Attention, si vous restez sans bouger, sans être transformé, peut-être que vous allez vous gâter. Vous allez pas vous gâter dans le sens de vous faire du bien, mais de vous pourrir. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui se sentent appelés à des grands changements. Des fois, c'est pas facile. On est des créatures d'habitude. Le changement nous fait toujours un peu peur. Il demande de l'énergie. Changer, ça prend de l'énergie. Mais si vous pouvez discerner que c'est la volonté du Seigneur, alors ne résistez pas. Sinon, il est obligé d'envoyer des gens qui vont vous transvaser. Ouh. Des Assyriens furieux qui vont... Et donc, Moab, Ésaïe continue au chapitre 16, « Envoyez les agneaux au souverain du pays de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. » Tel un oiseau fugitif, telle une nichée dispersée, telles seront les filles de Moab au gué de l'Arnon, une rivière de cette région. Donne un conseil, prends une décision, étends en plein midi ton ombre comme la nuit, abrite les réfugiés, ne trahis pas le fugitif. Moab, dans le passé, avait dû payer le tribut à Israël, notamment au roi Achab. Et le tribut, pour eux, c'était un peuple de pasteurs, d'élevage de moutons, d'agneaux, de brebis. Et chaque année, on le voit dans 2 Rois, verset 3, chapitre 3, verset 4, Il est dit, Mécha, roi de Moab, était éleveur. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Donc la royauté de Moab était forcée de payer un tribut, mais ils se sont révoltés et ils ont cessé. Et là, le prophète leur dit, continuez de payer le tribut à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer de vous soumettre à Israël et à leur Dieu. Le problème, c'était qu'ils voulaient bien l'aide qui est proposée au verset 3, à partir du verset 3 et 4. Moab voulait bien de cette aide, mais il ne voulait pas du Dieu d'Israël. Et ça aussi, ça nous parle. Les gens veulent notre aide bien souvent, mais ils ne veulent pas de notre Dieu. Combien des gens vous expliquent leurs problèmes? Ils veulent que vous les consoliez, ils veulent que vous les encouragiez, ils veulent que vous les aidiez peut-être physiquement, que vous matériellement, financièrement. Mais vous leur dites, en fait, ce qu'il te faut, c'est l'aide de mon Dieu. Ils disent, non, merci. Je veux ton aide, mais je veux pas ton Dieu. Faites attention, parce que des fois, on est content de donner cette aide aux autres, parce que quelque part, ça nous fait valoir. On est la personne qui aide. Mais si vous ne donnez pas la gloire de cette aide à Dieu, vous prenez la gloire qui appartient à Dieu. Si vous êtes en mesure d'aider quelqu'un, c'est parce que Dieu vous a béni. Ne faites jamais semblant de faire croire ne faites jamais croire à l'autre que c'est votre grandeur d'âme, c'est votre grande générosité, c'est votre grand caractère qui fait que vous les aidez. Donnez toujours la gloire à Dieu. Forcez-les à venir à votre Dieu s'ils viennent chercher votre aide. Amen. Et puis, donc, le prophète Ésaïe, Dieu demande par son prophète d'abriter les réfugiés. Donc il parle au peuple juif, et il leur demande d'aider Moab. Là aussi, il y a une leçon pour nous. Ce n'est pas parce que Dieu juge quelqu'un, Dieu juge une nation, des personnes, que nous devons ne pas les aider, ne pas les attaquer. Nous devons laisser Dieu, le jugement de Dieu, prendre place, mais nous devons exprimer de la compassion pour les autres. Trop souvent, mon cœur peut se réjouir des problèmes qui arrivent aux autres parce que je pense qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il veut. Il veut que nous abritions les réfugiés, que nous tendions en plein midi notre ombre comme la nuit. On doit faire du bien aux autres. L'Église doit être un lieu de refuge pour tous les pécheurs qui viennent à nous parce qu'ils veulent venir à Dieu. L'Église, c'est un lieu pour les malades. C'est un lieu où on est guéri et renvoyé au combat. C'est ça que ça doit être, l'Église. Pas un endroit où on est parfait, où on juge les autres qui sont des terribles pécheurs, alors que nous... Non, l'Église, c'est ceux qui ont fait appel à Jésus-Christ, à son salut, et qui transmettent cette bonne nouvelle et qui font du bien aux autres. Verset 4, que mes réfugiés séjournent chez toi, Moab, soit pour eux un abri devant le dévastateur, car c'est la fin de celui qui pressure, qui met la pression, le pillage est à son terme, celui qui piétine disparaît du pays, le trône s'affermira par la bienveillance, sur lui siégera avec fidélité dans la tente de David, un juge soucieux du droit et prompt à la justice. Quand on lit la prophétie du chapitre 16, on ne comprend pas toujours ce qui se passe, parce que c'est Moab qui est réfugié. Et puis verset 4, brusquement, c'est que mes réfugiés séjournent chez toi, Moab. En fait, la difficulté dans la prophétie, c'est de réaliser qu'il y a plusieurs plans. C'est comme un procédé de cinéma Il y a un premier plan, il se passe quelque chose, mais il peut se passer quelque chose à l'arrière-plan. Et souvent, la prophétie, c'est comme ça. Je le répète à chaque fois quand on parle d'Ésaïe. Il y a un accomplissement historique immédiat ou quasi immédiat, contemporain. Et puis, il y a cette vision peut-être à beaucoup plus long terme. Et finalement, il y a une vision de la fin des temps. Et entre le verset 3 et le verset 4, le prophète Ésaïe a levé les yeux du premier plan et maintenant il voit la fin des temps et il parle de la période de la grande tribulation. Le trône s'affermira, celui qui siégera avec fidélité dans la tente de David, c'est le retour de Jésus-Christ, du Messie. Et dans l'Apocalypse, il est question des gens qui vont se cacher sous les rochers. Ici, au verset 1 du chapitre 16, il est question de Séla dans le désert. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui font qu'on peut facilement identifier ce nom de Séla, ce refuge dans les rochers, avec la ville de Petra qui se trouve aujourd'hui encore, qu'on peut visiter aujourd'hui encore en Jordanie. Souvent, on a des problèmes lorsqu'on va en Israël parce qu'il n'y a pas encore de... C'est pas facile d'avoir un visa qui vous permette de passer d'un pays à l'autre. Mais c'est cette ville qui a été construite par les Nabatéens dans les rochers de Jordanie, qui est de toute beauté, une roche rose. Vous avez sans doute vu des sculptures, des photos plutôt de ces temples qui sont creusés dans la roche même. Et dans l'Apocalypse, il est évident que c'est peut-être un des lieux où les Juifs qui vivront la période de la grande tribulation pourront se réfugier. Et là, Ésaïe demande à Moab, qui va être jugé dans un premier temps, d'avoir de la compassion et de protéger son peuple dans le futur, dans la fin des temps. Verset 6. On voit enfin quel est le problème de Moab. On l'a évoqué, qu'ils n'étaient pas là où ils auraient dû se trouver pour annoncer la bonne nouvelle. Ils avaient causé du trouble au peuple d'Israël, aux descendants de Jacob. Mais verset 6, nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême. Sa fierté et son orgueil, son courroux et ses vaines prétentions. C'est pourquoi Moab se lamente sur Moab, chacun se lamente. Vous murmurerez, sur les ruines de Kir Hareseth, profondément abattues, car les campagnes de Heshbon se flétrissent, les maîtres des nations ont frappé les ceps de la vigne de Sima qui s'étendait jusqu'à Yazer, qui poussait ça et là dans le désert, ses sarments se prolongeaient et dépassaient la mer. Le problème de Moab, c'était le problème numéro un, celui qui a fait que Satan a voulu se faire l'égal de Dieu, c'est l'orgueil. Vouloir être aussi grand que quelqu'un ou plus grand que quelqu'un d'autre. Et ce qui est très frappant dans le cas de Moab, c'est que ce n'était pas une grande puissance. À l'époque, la grande puissance, c'était l'Assyrie, l'Empire assyrien, qui allait être remplacé par l'Empire babylonien, qui allait être remplacé par l'Empire d'Alexandre le Grand, qui allait être remplacé par Rome. Et ces nations auraient eu des raisons de se dire on est les plus forts, on est les plus beaux, on est top, on est... Bon. Mais Moab, c'était un petit pays qui était à l'arrière, qui était derrière la mer Rouge. C'était pas un pays qui avait une grande influence. Et il n'empêche, ce pays sans aucune influence se croyait important. Ce pays se croyait il pouvait avoir de la colère et des vaines prétentions. Il pouvait avoir du courroux. Il faut être fort pour avoir du courroux. C'est pas le petit qui a du courroux, c'est le grand roi, c'est le grand suzerain qui exprime sa colère contre avec le mot de courroux. Et ça, c'est un avertissement pour nous tous. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a des fois des gens qui sont brillants. Il y a des gens qui mériteraient qu'on les admire, et ces gens-là sont les gens les plus simples qui soient. On dit souvent, ils réalisent qu'en fait, ils sont loin de tout savoir, donc ils ont une humilité qui fait du bien et qui peut les caractériser. Et par contre, il peut y avoir quelqu'un d'assez ignorant, d'assez peu influent, qui se prend pour quelqu'un d'important. Et ça veut nous dire, attention à l'orgueil, c'est pas parce que vous n'êtes pas grand, par l'influence, par la richesse, par le nombre d'amis que vous avez, par les relations. Non, j'ai pas dit Facebook. Que vous ne pouvez pas être victime de l'orgueil. L'orgueil, c'est essentiellement insidieux. Je me rappelais lorsque Dieu m'a fait tomber dans une poubelle et que je me suis rappelé que l'orgueil précède la chute et que le Seigneur m'a invité à voir un peu de regarder en moi est-ce qu'il y avait de l'orgueil, parce que j'aurais pu dire que je prenais de la fierté à dire que je n'avais pas d'orgueil. Et en fait, le Seigneur m'a rappelé que chaque fois que je conduis, j'ai de l'orgueil. Pourquoi ? Parce que je veux dépasser cette personne qui ne sait pas où elle va devant moi, parce que mon emploi du temps est beaucoup plus important que celle de devant moi, la personne devant moi. Et encore une fois, attention, parce que l'orgueil, c'est insidieux. C'est ainsi que Dieu l'a fait, mais c'est insidieux, c'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit même pas. Et Moab, leur problème, c'était qu'ils se croyaient comme, ils se prenaient pour une grande nation qui influençait le monde. Et on voit comment, dans les versets 9 à 12, comment Ésaïe a du chagrin pour Moab. Il dit, c'est pourquoi je pleurerai la vigne de Sibma comme Yazer la pleure. Je t'abreuverai de mes larmes, Eshbon et Léalé, car sur ta récolte et sur ta moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu du verger. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissances. Le vendangeur ne foule plus le vin dans les cuves. J'ai fait cesser les cris de joie. C'est pourquoi mes entrailles frémissent pour Moab comme une harpe et mon cœur pour Kirares. Moab se présente, il se fatigue sur le haut lieu. Il arrive à son sanctuaire pour prier et ne peut rien obtenir. Les hauts lieux, c'était les lieux d'adoration des faux dieux de Moab. Ils prient à leurs idoles et rien ne se passe, bien entendu. Telle est la parole de l'Éternel que l'Éternel a prononcée depuis longtemps au sujet de Moab. Et maintenant, l'Éternel prononce ces mots. Dans 3 ans, comme les années d'un salarié, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Malgré l'ampleur de la foule, le reste sera réduit à très peu de choses et sans importance. Dans 3 ans exactement, les années d'un salarié, soit c'était un esclave qui comptait les jours de son esclavage, soit c'était un salarié qui se faisait payer jour après jour et de façon exacte. Dieu annonce que dans 3 ans, à l'époque où cette prophétie a été écrite, elle prendra place, elle se réalisera. Et le reste de Moab sera réduit à très peu de choses sans importance. Il passe à Damas et à Israël. Damas, c'était la capitale, ça allait toujours du royaume de Syrie. Donc il y avait la Syrie, c'était ce royaume qui se trouvait au nord-est de Jérusalem, d'Israël. Et on sait que, on a déjà vu qu'en fait Damas et le royaume du nord s'étaient ligués contre le royaume du sud. Et là aussi, le prophète voit comment ils vont être détruits par l'Assyrie, par le grand empire de l'Assyrie, et il voit le malheur qui fond sur Damas et sur Israël, le royaume du Nord. Il restera peu de choses, il n'y aura que quelques choses à grappiller sur les oliviers, dans les champs, verset 6. Et verset 7, il dira « En ce jour, le regard de l'homme se posera sur son Créateur et ses yeux contempleront le Saint d'Israël. » C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. « Son regard ne sera plus dirigé vers les autels, l'ouvrage de ses mains. » Il ne contemplera plus ce que ses doigts ont fait. Les poteaux d'Achéra, c'était des lieux des idoles, les obélisques au soleil. En ce jour, ces villes fortes seront abandonnées comme la forêt et la cime des montagnes, abandonnées devant les fils d'Israël, et ce sera une désolation. Il voit cette terrible ravage occasionné par les Assyriens, dont on a déjà parlé. Et il donne explication, verset 10, « Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ta force. C'est pourquoi tu as fait des plantations d'agrément, tu as mis dans la terre des pousses étrangères. Le jour où tu les plantas, tu les entouras d'une haie. Le matin même, ta semence donna des fleurs. La moisson est en tas au jour où on la possède, mais c'est une souffrance incurable. » Et puis les derniers versets, c'est une vision des Assyriens qui, comme une mer qui envahit, des flots qui mugissent, ils emmènent en esclavage Damas et Samarie, les villes du nord, les royaumes du nord d'Israël et de Syrie. C'est intéressant que aujourd'hui encore, ces États, il y a encore Israël, il y a encore la Syrie, il y a encore un conflit entre ces deux États sur la région qu'on appelle les hauteurs du Golan, qui est une très belle région. Malheureusement, maintenant, si elle est aux mains des Israéliens, ils ne peuvent rien en faire parce qu'elle est remplie de mines anti-hommes. Mais avoir les hauteurs, c'est dominer et ne pas être soi-même victime de bombardements. Donc cette région est toujours au cœur du conflit entre Israël et les nations arabes. Le problème pour ces nations, c'est qu'ils ont oublié le Dieu de leur salut. Oublié, ils ne se sont pas souvenus du rocher de leur force. Et ça, c'est un danger qui nous guette tous. Oublier le Dieu de notre salut. Oublier ce qui est la source de notre force, le rocher de notre salut. Et le Satan, il va tout faire pour vous faire oublier Dieu. Souvent, c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de faire des manipulations terribles, simplement vous distraire, vous occuper avec d'autres choses. Que ce soit des études, que ce soit du bonheur familial, que ce soit des entreprises, des poursuites de gloire, de plaisir. Vous n'avez pas le sentiment de laisser tomber Dieu, mais progressivement, vous lui donnez moins de place. Jusqu'au point où vous l'oubliez. Et vous croyez que les choses que vous avez, c'est parce que vous êtes quelqu'un de spécial. Quelqu'un de remarquable, avec des talents incroyables. Et lorsque on arrive à ce point d'oublier Dieu, Dieu doit intervenir des fois pour nous ramener à l'ordre et nous secouer. C'est ce qui se passe donc avec ces Assyriens qui vont envahir Damas et Israël. Puis juste très brièvement, le chapitre 18 parle d'une menace. Plus exactement, il ne parle pas de menace, mais il parle de l'Éthiopie. À l'époque, l'Éthiopie, c'était pas seulement le pays que nous appelons l'Éthiopie aujourd'hui. Ça regroupait le Soudan et même l'Égypte. L'Éthiopie avait pris le pouvoir et c'était une des grandes puissances qui montait. et qui était un peu le pendant de l'Assyrie. Donc là, il est question d'émissaires qui viennent à Jérusalem. Et en fait, c'était cet état d'Éthiopie, cette grande puissance qui voulait se faire des alliés contre l'Empire assyrien, avec qui ils allaient se disputer la primauté, la victoire comme étant l'état le plus influent dans le monde de l'époque. Et Dieu ne prononce pas une menace contre eux, il leur dit qu'il propose à cette grande futur état d'Éthiopie propose à Jérusalem, à Israël, plutôt à Juda, de les aider. Et la réponse de Dieu, c'est « Non, merci, je n'ai pas besoin de l'aide du monde. Il va pouvoir assurer, Dieu peut susciter une armée comme il le veut. Il peut, en une seconde, changer le cours des choses. Il a des légions, Jésus disait qu'il avait des légions, des myriades, des dizaines de milliers d'anges qu'il aurait pu, par un claquement de doigts ou un ordre, faire intervenir dans son conflit, dans les conflits qu'il rencontrait. Il a été volontairement à la croix parce qu'il savait que c'était ce qu'il fallait pour nous sauver. Mais là, Dieu dit non merci à l'Éthiopie qui offre son aide contre l'Assyrie à Jérusalem. Et puis, au verset 6, il décrit les conséquences. « Ils seront tous ensemble abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur le cadavre, toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. » En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple au corps élancé et luisant, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, dont le pays est sillonné par des fleuves. Il parle du fait que les Assyriens vont être détruits en un clin d'œil. Et ça, on le sait dans Ésaïe 36, on le verra, que 185 000 Assyriens ont été détruits en une nuit par l'ange de l'Éternel. Et il voit, encore une fois, il lève les yeux de la situation immédiate pour voir le futur. Il voit que des offrandes seront portées à l'Éternel des armées. L'Apocalypse nous explique que les nations du monde viendront adorer Dieu à Jérusalem. Il y aura des gens de toutes les nations qui adoreront le vrai Dieu. Ça doit nous encourager à partager l'évangile de partout dans le monde. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'en fait, cette prophétie a commencé à s'accomplir dans le livre des Actes. Vous vous souvenez, lorsque Philippe a été appelé par un ange, il a été appelé à parler à un Éthiopien qui était un haut fonctionnaire, un eunuque du royaume d'Éthiopie, qui dépendait de la reine de Saba, je crois. Et cet eunuque a demandé qu'on lui explique les passages d'Ésaïe, juste précisément, et l'idée de savoir Ésaïe 55, notamment. Il ne savait pas qui était cet homme qui allait mourir et qui allait amener le salut. Et Philippe lui a expliqué l'évangile. Lui a donné la bonne nouvelle. Et fort de cette compréhension, il s'est fait baptiser et on sait qu'il s'est développé une grande église chrétienne en Éthiopie au début du 1er, 2e, 3e siècle. Et jusqu'à ce jour, il y a une église chrétienne très vivante, même si elle est sans doute plus. Elle s'est laissée un peu enfermée dans certaines traditions. Il y a un témoignage chrétien en Éthiopie, aujourd'hui. Et là, encore une fois, ça doit nous montrer que ces passages que nous étudions, ils sont réels. Il y a une vraie application. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Ces prophéties, vous pouvez, si vous les comprenez bien, et souvent c'est le problème, c'est que par manque de connaissance de toute la parole de Dieu, on leur fait dire n'importe quoi. Mais si vous vous laissez guider, vous pouvez trouver des prophéties qui vont s'accomplir à la lettre. Et ça doit vous remplir d'excitation, de joie, de passer du temps sur ces passages qui des fois sont un peu ardus. Si on n'a pas l'arrière-plan historique, on ne voit pas qu'on est passé d'une prophétie au premier siècle à une prophétie à la fin des temps, et on ne comprend pas, c'est Moab ou c'est Israël qui doit accueillir les réfugiés. Tout ça pour dire que persévérer dans l'étude de la parole. Persévérer parce que c'est la parole qui vous nourrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour cette parole qui s'accomplit, qui s'est accomplie dans le passé et qui va continuer de s'accomplir. Aide-nous à connaître tes promesses, tes prophéties, mais aussi tes promesses pour nous qui vivons à Nice au XXIe siècle. Aide-nous à ne pas essayer de te manipuler, mais à connaître ta parole, Seigneur, pour avoir confiance dans les choses que tu nous annonces. Contrairement aux paroles des hommes, auxquelles nous ne pouvons pas faire confiance, Seigneur, nous pouvons te remettre nos vies, te remettre notre futur, Seigneur. Tu vois les leçons que nous avons pu voir, Seigneur. Merci de nous les rappeler quand des fois nous oublions. Aide-nous à penser à être une aide pour ceux qui sont jugés par Dieu, pour tous les païens aujourd'hui qui souffrent, Seigneur, des conséquences de leurs péchés. Aide-nous à ne jamais t'oublier, à ne jamais oublier le salut que tu as offert en nous, Seigneur. Merci de nous rappeler que tu sais prendre soin des tiens, Seigneur. Tu n'as pas besoin de l'aide du monde. Seigneur, sois glorifié dans nos vies. Que ces paroles, ces leçons du Saint-Esprit, Seigneur, nous fassent du bien. Qu'elles nous remplissent de confiance en toi, Seigneur. Sois glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, par le nom de Jésus. Amen.